Esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition de l'Esprit public, au cours de laquelle nous nous efforcerons d'éclairer certains éléments de l'actualité de la semaine écoulée. Nous le ferons avec Nicole Niesotto, professeure titulaire de la chaire sur l'Union européenne au Conservatoire national des arts et métiers, François Bujon de l'Étang, ambassadeur de France, Jean-Louis Bourlange, essayiste, Thierry Pêche, directeur général de la Fondation Terra Nova. Et nous commencerons par nous intéresser à la prolifération ou à la non-prolifération nucléaire en Corée du Nord et en Iran. Alors que les sanctions contre Téhéran ont été levées cette semaine après le feu vert de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, rendant à l'Iran sa place dans les échanges internationaux, la Corée du Nord est unanimement condamnée pour les essais nucléaires menés par Kim Jong-un le 6 janvier dernier. Le leader nord-coréen a annoncé la réussite d'un test de bombe à hydrogène miniaturisé, étape supplémentaire après la maîtrise de la bombe A, elle-même testée 3 fois depuis 2006 en violation des résolutions de l'ONU. Toutefois, les experts soupçonnent fortement la Corée du Nord de bluffer, car les secousses sismiques enregistrées laissent penser que le test du 6 janvier concernerait de nouveau une bombe A. À l'approche du 7e congrès du Parti des travailleurs qui se tiendra en mai prochain, le premier depuis 1980, l'annonce de l'essai réussi d'une bombe H apparaît comme une stratégie de l'héritier Kim Jong-un pour imposer sa légitimité en référence à l'annonce par son père Kim Jong-il de la réalisation de la première bombe A. Toutefois, après la convocation d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies, la Chambre des représentants des États-Unis s'est prononcée pour un durcissement des sanctions à l'encontre de Pyongyang. Le Forum économique mondial de Davos a annulé son invitation à la Corée du Nord qui a qualifié cette décision de gravement injuste et la présidente sud-coréenne, Park Geun-hye, réclame l'aide de la Chine face à ce défi inacceptable imposé par son voisin. Concomitamment, l'Iran a réintégré officiellement la communauté internationale dimanche dernier grâce à la levée des sanctions de l'Union européenne, des États-Unis et de l'ONU. L'AIEA a en effet attesté que Téhéran a notamment réduit le nombre de centrifugeuses qui permettent d'enrichir de l'uranium. L'accord conclu le 14 juillet à Vienne ne pouvait entrer en vigueur qu'après une série de vérifications pour une levée des sanctions qui se déroulera en 3 étapes d'ici à 2025. Hassan Rouhani s'est félicité de l'ouverture d'une nouvelle page pour son pays. John Kerry, le chef de la diplomatie américaine, a annoncé le remboursement d'1,7 milliard de dettes datant de la révolution islamique de 1979. En tout, l'Iran devrait récupérer 30 milliards de dollars retenus à l'étranger. Le Fonds monétaire international prévoit une croissance de 5% pour le pays qui va pouvoir exporter librement son pétrole et s'ouvrir aux investissements occidentaux. Sa première annonce phare, après la levée des sanctions, a été l'achat de 114 Airbus. Sur cette question, François Bujon de l'Étang.
Il y a des coïncidences dans l'histoire, ou en tout cas des concomitances, et vous l'avez dit, ce qui est très intéressant, c'est la concomitance entre le nouvel épisode de la saga nucléaire nord-coréenne et celui de la saga nucléaire iranienne. 20 ans d'efforts dans le cas de la Corée du Nord pour parvenir à ce 4e essai, à peu près 13 ans de bataille avec l'AIEA et l'ONU dans le cas de l'Iran. Et l'une affirme sa volonté de parvenir à la maîtrise totale de l'arme nucléaire au moment où l'autre semble y renoncer. C'est ce qui recueille, je crois, notre attention. Alors, dans le cas de la Corée du Nord, il y a eu des épisodes très très nombreux dans lesquels parfois la Corée du Nord a donné l'impression d'utiliser son arme nucléaire comme un instrument de chantage vis-à-vis de l'Occident pour obtenir de l'aide alimentaire, pour obtenir même des centrales nucléaires à eau légère qui lui avaient été promises par les Américains lors du premier accord qui a duré quelques années. Et puis à chaque fois, la Corée du Nord est repartie dans son aventure nucléaire, en s'affirmant de plus en plus sur le plan des compétences nucléaires, mais en s'isolant de plus en plus internationalement. Alors, ce qui est intéressant, c'est de comparer vraiment les deux histoires, les deux aventures. D'abord, ce sont des régimes complètement différents qui n'ont rien à voir. La Corée du Nord, comme chacun sait, est une survivance de la guerre froide. C'est un régime paléo-stalinien, c'est presque le musée Grévin du stalinisme, d'ailleurs, à ceci près que c'est un régime dynastique, puisque nous en sommes au troisième des Kim, alors que Staline n'a pas eu de descendance sur le trône, si j'ose dire. C'est un régime dynastique, et avec un culte de la personnalité absolument délirant. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il donne l'impression, puisque c'est un pays assez misérable et qui a connu des famines très graves dans les années 90 notamment, il donne l'impression que son problème n'est pas tellement le développement économique. Sinon, il aurait probablement agi différemment et aurait évité cet isolement. Mais qu'il est au contraire la survie et la perpétuation du régime. Tout, en Corée du Nord, est axé sur la survie et la perpétuation du régime. Et au fond, si on essaye de comprendre que les Coréens du Nord restent très ennemis à ceux du Sud, qu'ils se méfient du Japon, qu'ils se méfient des États-Unis, qu'ils se méfient de la Russie et qu'ils se méfient de la Chine, c'est un régime très paranoïaque qui compte sur l'arme nucléaire pour assurer sa survie. Je crois que c'est aussi bête que cela. Le cas de l'Iran est complètement différent. L'Iran est une puissance émergente, c'est un pays de 80 millions d'habitants qui a une aspiration à devenir la puissance régionale dominante dans la région, disons, du Golfe et dans sa partie de l'Asie centrale. C'est également une puissance très très idéologique, c'est une théocratie révolutionnaire qui a vécu pendant pratiquement 20 ans, de l'hostilité déclarée à l'Occident et aux États-Unis. Elle est très militante de ce domaine, militante contre l'Occident, militante contre les États-Unis, militante contre Israël. Alors, les deux ont eu des aventures nucléaires parallèles, mais finalement assez différentes. La Corée du Nord, qui était signataire au début du traité de non-prolifération, a dénoncé ce traité et mis à la porte les inspecteurs de l'AIEA en 2003. L'Iran, au contraire, est un signataire du TNP qui a toujours prétendu vivre en accordance avec les prescriptions du traité, mais qui en fait a triché, a été pris en flagrant délit de tricherie par les inspecteurs de l'AIEA, ce qui lui a valu ce très très long contentieux avec l'AIEA et l'ONU. La Corée du Nord, je l'ai dit, a utilisé son arme dans un premier temps comme un moyen de chantage sur l'Occident pour obliger celui-ci à lui tendre la main et pour obtenir d'être reconnu par les États-Unis, par exemple, avec qui ils ont toujours voulu avoir un tête-à-tête. Mais aujourd'hui, je pense que la Corée du Nord change de cap. Elle change de cap parce qu'elle en est à son quatrième essai, parce qu'elle développe en même temps un programme balistique qui connaît d'ailleurs des déboires techniques, et parce que je crois qu'il serait illusoire de penser aujourd'hui qu'elle pourrait revenir en arrière. Je pense qu'il y a un cliquet qui s'est fait, je ne sais pas quand exactement, mais que la Corée du Nord aujourd'hui est prête à affronter les sanctions, l'isolement, des relations plus tendues avec la Chine, parce que elle va garder son armement et qu'elle veut être reconnue comme une puissance nucléaire. L'Iran, au contraire, a pris une décision stratégique tout à fait contraire au moment, il y a quelques années, mais au moment essentiellement de l'élection du président Rouhani qui a succédé à Ahmadinejad. Sous la pression d'une opinion publique qui aspire à revenir dans le jeu économique international et qui souffrait très sérieusement des sanctions, l'Iran a fait le calcul qu'il y avait plus d'inconvénients que d'avantages à poursuivre son programme nucléaire et que celui-ci ne pouvait que l'isoler, lui valoir des déboires, que les sanctions faisaient souffrir sa population et handicapaient son économie. Et donc l'Iran, à partir de Rouhani, a fait de la levée des sanctions, thème sur lequel il a été élu, l'objectif cardinal de sa politique étrangère. Alors ce faisant, il espère régler son problème. Je veux dire, il règle aussi le problème de Monsieur Obama, il règle le problème de l'Occident, il règle le problème de bien du monde. Et voir un pays de ce genre, qui était si réfractaire, qui était si hostile, revenir par une décision libre de sa part dans le jeu international, a des conséquences stratégiques extrêmement importantes.
Nicole Nisotto.
Oui. Peut-être essayer déjà de tirer quelques leçons de ces deux aventures parallèles que François Bujon de Létang a parfaitement décrites. D'abord, le simple fait de reconnaître que l'arme nucléaire, dans la mondialisation, reste malgré tout un élément central du système de sécurité internationale. Il est vrai que la mondialisation change beaucoup de choses sur les questions de sécurité. Il est vrai qu'aujourd'hui, les menaces sont davantage, en tout cas du point de vue européen, les aventurismes russes, l'hyperterrorisme militarisé de Daesh, la faillite de certains États ou de régions entières, en particulier au sud en Afrique. Mais tout ceci ne doit pas faire oublier, malgré tout, que l'arme nucléaire reste un élément exceptionnel et un élément central du système de sécurité international. Et aujourd'hui, nous avons dans le monde, je crois qu'il faut le rappeler, 5 puissances nucléaires avérées, qui sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. 2 États nucléaires de facto, sinon de jure, c'est-à-dire qui ne sont pas reconnus en droit, mais qui de fait le sont, qui sont l'Inde et le Pakistan, et un État dit du seuil, c'est-à-dire Israël. Et donc, ces 7 États nucléaires sont, d'une certaine façon, les 7 piliers d'une strate de sécurité internationale qui est absolument fondamentale. Le deuxième point, c'est peut-être un bilan sur les efforts occidentaux de lutte contre la prolifération nucléaire. Alors, certains peuvent dire que l'essai de la Corée du Nord du 6 janvier marque un échec dans la politique occidentale de lutte contre la prolifération. Moi, je pense que cette analyse est rapide et largement fausse. Si on regarde depuis 1968, c'est-à-dire la date de signature du TNP, du traité de non-prolifération, globalement, la politique de non-prolifération des Occidentaux a été un très grand succès. Dans les années 90, il y avait l'Afrique du Sud, le Brésil, l'Argentine, puis plus tard la Libye, et quand l'Union soviétique a disparu, l'Ukraine, le Kazakhstan, la Biélorussie, tous ces pays ont renoncé, soit un peu contraints comme les ex-républiques soviétiques, soit véritablement comme un acte souverain pour l'Afrique du Sud, le Brésil et l'Argentine, ont renoncé à des programmes nucléaires, pour certains très avancés, qu'ils avaient sur leur territoire. Et donc, le seul vrai échec de la politique de prolifération nucléaire pendant ces années 90, ça a été le Pakistan. Le Pakistan devient un État nucléaire en 98, et ça, personne ne l'a vu, pas même les Américains. Mais globalement, si on prend le nombre d'États nucléaires aujourd'hui présents dans le monde, on peut dire, sans l'ombre d'un doute, que cette politique occidentale est un succès. Il reste aujourd'hui un pays que personne ne contrôle, qui est la Corée du Nord. Mais pour le reste, même l'Iran aujourd'hui, donc depuis le 14 juillet 2014, est entré dans une phase de normalisation. Donc ça, je crois qu'il ne faut pas l'ignorer. Est-ce que ça veut dire pour autant que la question de la prolifération nucléaire est terminée? Non, bien sûr que non. Il y a premièrement la Corée du Nord, qui reste un pays, comme vous l'avez dit, à la fois totalitaire et ubuesque, pour lequel on ne saurait parier que les dirigeants sont à 100% rationnels dans leur comportement politique. Et donc l'usage, soit accidentel, soit complètement déraisonné de l'arme nucléaire, n'est pas impensable dans le contexte stratégique de l'affrontement entre les deux Corées. Donc la Corée du Nord reste un problème, je crois, sans solution, parce que la Corée du Nord ne veut pas être réintégrée dans la communauté internationale, donc ne fera aucune négociation digne de ce nom. Il reste deuxièmement, le risque d'une prolifération nucléaire clandestine, non pas sur des États constitués, mais sur des groupes terroristes. Alors c'est une vieille inquiétude, l'inquiétude de la bombe sale, c'est-à-dire le risque que quelques groupes parviennent à fabriquer une bombe nucléaire à partir d'un réseau mafieux et clandestin qui est très réel. Donc ça, c'est une inquiétude qui demeure. Il y a l'inquiétude qu'un pays aujourd'hui nucléaire change de régime et devienne un pays islamiste, dur, anti-occidental. Et évidemment, tout le monde a le nez sur le Pakistan. Alors, ce ne serait pas de la prolifération nucléaire, ce serait le changement de régime d'un État déjà nucléaire. Et puis, il y a le risque de toutes les autres armes de destruction massive dont on ne parle pas, mais en particulier l'arme chimique, qui est une arme de destruction massive et qui, elle, est beaucoup moins contrôlée que n'a été l'arme nucléaire et dont on sait qu'elle est utilisée, qu'elle est possédée par une série de pays sur la planète.
Thierry Pêche.
Écoutez, moi, je ne suis absolument pas spécialiste de ces questions. Et à la fois François Bujon de l'Étang et Nicole Nézotto ont apporté beaucoup d'éléments, et donc je vais me contenter de poser quelques questions. Sur la Corée du Nord, moi, ce qui me frappe, c'est la faible influence de la Chine sur cette crise plus que latente, puisqu'il y a quand même des essais nucléaires, c'est pas rien. La Chine alimente la Corée du Nord du point de vue énergétique et ne semble pas avoir néanmoins les moyens, du point de vue énergétique et d'autres points de vue également, elle ne semble pas néanmoins avoir les moyens de contrôler ce qui se passe à Pyongyang. Or, la Chine prétend un rôle international, un rôle de régulation dans beaucoup de dossiers. On l'a vu même à la COP21 à Paris. La Chine a fait de réels efforts pour qu'un accord soit possible. Et elle semble, en revanche, en difficulté dans son étranger proche, comme diraient les Russes, elle semble en difficulté dans son étranger propre, proche dans sa propre région. Et je crois que l'interpellation de Washington n'est pas une des fausses. C'est une interprétation, enfin, vous me direz ce que vous en pensez, vous êtes plus spécialiste que moi, mais qui me semble devoir être prise d'un point de vue assez littéral. Lorsqu'ils disent à Pékin, occupez-vous de ce qui se passe chez vous, soyez à la hauteur de vos ambitions, il parle sérieusement. La deuxième interrogation que j'ai concerne l'Iran. Moi, j'ai jamais été tellement effrayé par le programme nucléaire iranien et les débats qu'il a suscités, parce qu'on voyait bien que l'Iran restait dans un dialogue avec les puissances de ce monde et avait des ambitions rationnelles, sinon raisonnables, du moins rationnelles. Voir l'Iran aujourd'hui aboutir à une solution avec les puissances occidentales en particulier est plutôt une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle pour l'Iran, qui est une grande puissance démographique, qui a, je crois, 70 millions d'Iraniens aujourd'hui, donc c'est une bonne nouvelle pour les Iraniens. C'est aussi une bonne nouvelle pour la région, qui voit s'affirmer une puissance raisonnable. Mais, en même temps, c'est une puissance chiite. Et même si elle ne cherche pas l'affrontement religieux, elle le trouve aujourd'hui dans la péninsule arabique en particulier. Et puis, un dernier mot, mais très très vite, Philippe, je vois que vos yeux me grondent. Sur le TNP 68, il restera toujours un paradoxe dans cette affaire. C'est qu'on a dit en 68, ceux qui ont la bombe la gardent et tous les autres en seront privés. Il est évident que pour beaucoup d'autres, et d'autres candidats se manifesteront dans le futur, c'est certain, c'est une asymétrie évidemment discutable.
Jean-Louis Bourlange.
Oui, trois remarques assez rapides. Je dis assez par prudence. Premièrement... Premièrement, le général Gallois nous a quittés il y a quelque temps. Je trouve que c'est ce que fait la Corée, c'est la magnifique, la dernière et la plus parfaite illustration de la doctrine de la dissuasion du faible au fort, telle que l'avait imaginé le général Gallois, qui ne peut, et c'est la preuve que ça ne peut marcher, la théorie du général Gallois, qu'avec des pays fous. Parce qu'en réalité, personne n'a intérêt à servir de l'arme atomique, même s'il est attaqué. Sauf évidemment quelqu'un qui est dingue. Or, avec les Coréens, on peut se dire que s'ils étaient vraiment menacés, ils pourraient faire sauter tout un tas de choses et leur peuple avec. En réalité, ça n'est possible, comme l'a très bien remarqué Nicole, que parce que c'est un État, et même à l'intérieur d'un État, un clan, et à l'intérieur de ce clan, un homme, parce qu'il massacre aussi la parentèle, qui existe seul. Il faut imaginer Hitler... qui aurait pu préserver son bunker. Il aurait liquidé le peuple allemand. Là, la société coréenne n'a aucune importance, et donc ça fonctionne parfaitement. Première remarque. Deuxième remarque, on voit bien l'embarras de la Chine. Comme toujours, on a l'impression que ça profite pas. En histoire, ça profite toujours indirectement. J'ai l'impression que, en réalité, ça sert plutôt, mais je parle sous le contrôle de François, qui connaît bien mieux ces choses que moi, ça sert plutôt les Américains. Parce que les Américains ont une responsabilité de sécurité sur un certain nombre de peuples, la Corée du Sud, le Japon, et puis tout un ensemble de pays proches de la Chine, mais qui regardent la Chine avec méfiance. Et là, on s'aperçoit que la Chine ne fait pas le travail. Elle n'est pas... on peut comprendre pourquoi elle ne le fait pas, mais elle ne le fait pas. Et du coup, ça justifie une présence assez forte des Américains dans cette partie du Pacifique. Et je crois que ça renforce leurs mains. D'où le caractère un petit petit peu hypocrite quand même de leurs admonestations aux Chinois, mais enfin, c'est votre responsabilité, c'est votre bac à sable, vous devriez faire quelque chose. Je me demande s'il n'y a pas quand même une connivence. La troisième question qu'on peut se poser, c'est évidemment celle de la prolifération. Alors je crois que on avait eu une discussion, j'avais effectivement dit, parce que des gens du Quai d'Orsay m'avaient fait cette démonstration, je ne l'avais pas inventé tout seul, que la politique de non-prolifération, avait eu des résultats bien meilleurs que ce qui apparaissait. Et là, Nicole l'a rappelé, je crois que c'est tout à fait vrai. Et est-ce que dans cette affaire, l'infraction nord-coréenne, est-ce que ça nuit à la politique de non-prolifération ? Je ne crois pas. Et paradoxalement, c'est plutôt la politique iranienne. Bon, si les Iraniens avaient continué, on ne sait pas très bien comme leur commander, si on n'avait pas eu d'accord avec eux, comme leur commandaient les Israéliens et les Saoudiens, en réalité, on aurait eu effectivement sans doute une continuité de l'escalade nucléaire de l'Iran. Mais là, on a arrêté. En même temps, c'est un état du seuil. Et on a un raidissement très profond de la situation autour du Golfe Persique. Et je me demande si vraiment il n'y aura pas une tentation assez forte des Saoudiens de se doter de l'arme nucléaire, les Saoudiens qui, à leur manière, autour de la famille Al-Saoud, constituent une entité qui tente à s'affranchir de toute règle internationale.
François Bujon de l'Étang.
Deux ou trois remarques au vol sur ce qu'on dit les uns et les autres, et puis ensuite je voudrais dire un petit mot des leçons à tirer. Remarque en vol, d'abord, Nicole a parfaitement raison de dire que le régime de la non-prolifération animée par les Occidentaux, mais pas les Occidentaux seuls, d'ailleurs la Russie et la Chine ont participé à cette politique de non-prolifération, a été un succès. Elle a considérablement limité les dégâts. Moi, je me souviens, pardon, de raconter mes campagnes, mais à la fin des années 70, j'étais le représentant de la France au Conseil des gouverneurs de l'AIEA, et à l'époque, on admettait communément que dans 15 ans, il y aurait 20 à 25 puissances nucléaires. Donc il y avait une prophétie qui ne s'est pas réalisée là. Et elle ne s'est pas réalisée parce que le système mis en place a été efficace. La combinaison de la pression des grandes puissances, et elles y ont toutes contribué, et du système onusien, disons AIEA-ONU, a été efficace. C'est une première remarque. Alors ceci m'amène à la Chine et aux remarques que Thierry vient de faire, sur la Chine et son impuissance à ramener la Corée du Nord à la raison. La Chine pourrait, elle aurait tous les moyens. 70% du commerce extérieur de la Corée du Nord se fait avec la Chine. Mais la Chine redoute l'effondrement de la Corée du Nord, avec un flux de réfugiés, avec une déstabilisation complète de la région, et avec surtout le risque qu'une réunification de la péninsule coréenne se fasse sous l'égide des États-Unis et n'amène évidemment les armées américaines sur les frontières de la Corée. Donc la Chine n'emploie pas cette arme absolue qu'elle pourrait employer, qui serait la pression économique. En même temps, elle perd la face. Et elle en est aujourd'hui totalement préoccupée. D'autant plus que, vous avez eu tout à fait raison de souligner que ça sert les intérêts stratégiques des États-Unis. C'est certain. L'inquiétude du Japon, l'inquiétude de la Corée du Sud donne un alibi, si j'ose dire, aux Américains pour développer leur présence et l'endiguement, non seulement de la Chine, mais de la Corée du Nord. Alors, ceci tient, c'est une troisième remarque, à la nature du régime coréen. C'est un régime complètement autiste, qui ne s'occupe pas de ce que pensent les autres. Ça lui est égal. Et même ce que pense Moscou, où Kim Jong-un était invité, d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, et ce que pense la Chine finit par leur être indifférent. Au fond, c'est très difficile d'analyser ce régime coréen, parce que vous avez dit, Jean-Louis, qu'il était clanique, c'est vrai. Mais les Américains, auxquels je parlais souvent de ce sujet nord-coréen, disaient, oubliez les grilles de lecture normales pour parler de la Corée du Nord, c'est une secte. C'est un régime sectaire qui s'est approprié un État et par conséquent, nos analyses habituelles sur le comportement des États ne s'appliquent pas à ce système sectaire. Et puis je voudrais faire une ultime remarque, mais qui me paraît assez importante. C'est que il est communément entendu par les uns et par les autres que le système des sanctions internationales ne marche pas. Si Flaubert était encore de ce jour, il pourrait ajouter une entrée à son dictionnaire des idées reçues. Sanctions, ça ne marche pas. Bon. Eh bien, il aurait tort, car l'affaire iranienne, qui vient d'aboutir à l'accord du 14 juillet 2015 montre bien que les sanctions marchent. Elles ont littéralement pesé sur l'économie iranienne au point que l'opinion publique a fait pression sur les autorités pour qu'on cherche à obtenir la levée des sanctions. Il y avait eu d'autres cas dans l'histoire où les sanctions ont marché. Le cas de l'Afrique du Sud est le plus symptomatique. Mais là, je retiens quand même quelque chose pour l'avenir, c'est que le système des sanctions économiques combiné avec une pression conjointe des grandes puissances peut donner des effets positifs.
Il faut juste avoir beaucoup de temps devant soi.
Oui, absolument. Il faut avoir du temps. Ça a pris presque 15 ans.
Nicole Nisato.
Juste sur le TNP, là, pour répondre à la remarque de Thierry, c'est vrai que le TNP, le traité de non-prolifération, est l'outil diplomatique de lutte contre la prolifération nucléaire, mais c'est vrai que c'est un outil à la fois qui repose sur une injustice et une hypocrisie majeure, et qui a été très souvent dénoncée, notamment par les Iraniens quand ils étaient dans cette...
Par De Gaulle
et par tous ceux qui veulent proliférer. Le TNP repose sur un double deal, c'est-à-dire les États nucléaires disent « je garde mon arme nucléaire » mais je m'engage à un désarmement nucléaire général et complet à un jour peut-être, voilà. Et deuxièmement, les États potentiellement, enfin qui voudraient se doter de l'arme nucléaire, disent « je renonce au nucléaire militaire, mais en échange j'ai accès à tout le nucléaire civil et vous m'aidez à avoir cette technologie ». Donc ça c'est le double deal et l'injustice est que d'une part le TNP entérine les États nucléaires à la date du TNP, c'est-à-dire 68, donc il n'y en a que 5, ce sont des États de droit, les autres sont des États de facto mais ne seront jamais des États de droit, et l'hypocrisie c'est que le TNP ne sanctionne que les États qui ont signé le TNP, c'est-à-dire l'Iran, qui avait fait l'erreur, entre guillemets, en 70, de signer le TNP, a été soumise à toute la critique de la communauté internationale, alors qu'Israël, qui n'a jamais signé le TNP, n'est pas en but ni aux critiques ni à l'analyse de cette communauté.
Je vous remercie. En dépit de la publication d'un ouvrage de l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, et d'un plan économique de l'actuel président de la République, François Hollande, il m'a semblé qu'un autre sujet de politique étrangère devait prendre le pas sur ces deux importantes démarches que je viens de citer. Il s'agit de la Pologne. Des membres du gouvernement au pouvoir en Pologne depuis le mois d'octobre dernier se sont rendus cette semaine à Bruxelles pour défendre leur politique devant les instances européennes. Lundi, le président polonais Andrzej Duda a rencontré Donald Tusk, le président du Conseil européen. Et mardi, c'est la première ministre Beata Szydło qui s'est présentée devant le Parlement dans le cadre d'un débat. Depuis le 13 janvier, la Pologne est sous surveillance de la Commission européenne qui, pour la première fois de son histoire, applique un dispositif de sauvegarde de l'état de droit à un membre de l'Union européenne. Deux mesures sont dans le viseur de Jean-Claude Juncker, la mainmise du gouvernement polonais sur le tribunal constitutionnel et sa réforme des médias publics. Dès son arrivée au pouvoir, le parti Droit et Justice, le PiS, a limogé les chefs des agences de sécurité et placé des amis au tribunal constitutionnel en nommant 5 nouveaux juges. Juste avant Noël, le gouvernement de Beata Szydło a voté une loi qui place les médias publics sous le contrôle du ministre du Trésor, provoquant la démission de plusieurs directeurs de chaînes de télévision. Par ailleurs, la chambre basse du Parlement polonais a voté une loi de surveillance qui donne à la police le droit de contrôler les données des internautes. Ces mesures inquiètent l'Europe, mais aussi l'agence de notation américaine Standard & Poor's, qui a rétrogradé la Pologne, ce que le ministre des Finances polonais a qualifié d'incompréhensible du point de vue de l'analyse économique et financière. Des manifestations ont eu lieu à Varsovie au cours du mois de décembre et le 9 janvier dernier, rassemblant plusieurs milliers de personnes. Elles avaient pour mot d'ordre la liberté des médias et la défense de la démocratie. Cependant, devant le Parlement européen, Beata Szydło a défendu la souveraineté polonaise et affirmé qu'elle ne faisait qu'appliquer le programme pour lequel le parti Droit et Justice a été porté au pouvoir lors des élections législatives. Quant à Andrzej Duda, il a tenté de calmer le jeu face à Donald Tusk en rappelant l'attachement de la Pologne à l'Union. Un autre sujet préoccupe l'Europe. Farouchement opposé au plan européen de répartition des migrants, le PiS rejoint la position de Viktor Orban, le premier ministre hongrois, et cette alliance empêche de facto la prise de sanctions de la part de l'Europe, puisque Viktor Orban a d'ores et déjà annoncé qu'il s'y opposerait. Le 12 février prochain, la première ministre polonaise, Beata Szydło, rencontrera pour la première fois la chancelière allemande Angela Merkel à Berlin pour aborder la question des réfugiés. Sur cette question, Nicole Nisato.
Oui, alors ce qui se passe en Pologne... s'il fallait prouver qu'il n'y a pas d'irréversibilité dans la démocratisation des nations, je crois que ce qui se passe en Pologne en serait aujourd'hui une preuve éclatante. Et il faut s'interroger quand même, pourquoi la Pologne ? Pourquoi ce pays qui, normalement, devrait être le leader de la revendication démocratique, de l'européanisation, du soutien occidental, pourquoi ce pays est-il aujourd'hui en train de, pour reprendre une expression du président du Parlement européen, Martin Schulz, de se poutiniser ? Quand on regarde effectivement la Pologne depuis qu'elle est rentrée dans l'Union européenne, elle a tous les ingrédients pour être le leader du camp des démocraties. Elle a été, le Solidarność a été l'événement avec Waleza, Geremek et bien d'autres qui ont permis à l'Union soviétique de s'effondrer de façon pacifique. La Pologne s'est considérablement enrichie depuis 20 ans, entre 90 et 2010, plus 80% de croissance économique. La Pologne est aujourd'hui le sixième pays économique de l'Union européenne. Elle reçoit des aides extraordinaires, 15 milliards d'euros par an de la part de l'Union européenne. Sa situation stratégique, la Pologne, après avoir été occupée pendant 60 par l'Union soviétique, se sent aujourd'hui menacée par la Russie. Donc elle devrait presque naturellement se précipiter non seulement dans le camp de l'OTAN, mais dans le camp également américain, d'autant qu'elle est le leader de la campagne pour faire rentrer l'Ukraine dans l'Union européenne. Et puis deux éléments de circonstance, c'est un Polonais qui dirige le Conseil européen, Donald Tusk, et c'est à Varsovie qu'aura lieu le sommet de l'OTAN en juillet prochain, en juillet 2016. Donc c'est absolument incompréhensible que tout d'un coup, cette Pologne se mettent à prendre les positions antidémocratiques, à créer ce que Geremek appelait en 2007, lors de la loi sur la décommunisation, un ministère de la vérité et une mémoire de la police. Mais donc, pourquoi ? Moi, je crois que ce qui se passe aujourd'hui, c'est la fin d'un grand malentendu pan-européen sur l'intégration européenne. Pour les vieux Européens, les Européens historiques, il y a cette idée que, quelque part, l'intégration européenne a comme finalité le dépassement des souverainetés nationales dans la création d'un démos européen et d'une fédération d'États-nations dans lequel, bien sûr, les souverainetés nationales existeraient encore, mais parviendrait petit à petit à exercer en commun l'exercice du pouvoir politique. C'est un peu la finalité de l'Union européenne en France et dans les pays historiques de l'Union européenne, à l'exception de la Grande-Bretagne un peu plus tard. Pour la Pologne, ça n'est pas du tout ça. C'est même le contraire. L'intégration européenne n'est pas une aventure vers le dépassement des souverainetés. Ça a été au contraire le moment de récupération d'une souveraineté pleine et entière qui avait été privée, enfin qui avait été volée par l'occupation soviétique de 60 ans. Et donc je crois que le malentendu, il est là, notre surprise. Elle vient de ce malentendu. Pour les Occidentaux, l'Europe, c'est un dépassement, une possibilité de dépassement naturel des souverainetés nationales. Pour la Pologne, l'Europe, ça a été la condition du retour à la souveraineté politique. Et donc cette idée que, à peine redevenus libres, indépendants et souverains, les Polonais doivent se soumettre à des contraintes, entre guillemets, de Bruxelles, cette idée aujourd'hui passe absolument mal au sein de la population. Et on a vu que la Pologne a pris des positions contre l'euro, contre l'ingérence politique récente de la Commission, contre les demandes de solidarité qu'ils appellent de solidarité forcée vis-à-vis des réfugiés. Il y a là, je crois, quelque chose qui est en train d'éclater, notre malentendu avec la Pologne, avec la Hongrie, avec les autres pays d'Europe centrale, et je crois aujourd'hui sur la table. Deuxièmement, je crois que l'exacerbation de la souveraineté en Pologne est d'autant plus forte que la Pologne se sent menacée par la Russie à l'Est, menacée, entre guillemets, par des contraintes économiques, soit de la Banque centrale, soit de la Banque centrale européenne, soit du FMI, soit des agences de notation qui, effectivement, ont dégradé, et, entre guillemets, menacée dans son identité polonaise, parce qu'elle appelle le flux des réfugiés musulmans en Europe. Et je crois que cette situation de faiblesse polonaise, alors ça n'excuse pas la gravité des choses, mais ça permet de comprendre à la fois ce qui se passe et notre surprise vis-à-vis de ces événements.
Jean-Louis Bourlange.
Oui, il y a vraiment beaucoup d'entrées. Je crois qu'il y a quand même quelque chose de très frappant, c'est la capacité des Polonais à faire des choix malencontreux. je pense que c'est quand même une spécialité historique. C'est un pays qui s'est détruit, qui était quand même une immense puissance au début du XVIIIe siècle, la Pologne-Lituanie, et il s'est vraiment détruit, et il s'est détruit pour des raisons institutionnelles qui lui sont propres, c'est-à-dire le pouvoir anarchique de l'aristocratie avec le liberum veto. Bon. Ensuite, on voit toujours cette démarche, l'incapacité à choisir clairement un adversaire privilégié. Ils aiment pas les Allemands, ils aiment pas les Russes. Mais très bien, mais il faut choisir. Bon, en 38, je rappelle qu'en 1938, au moment des accords
c'est,
de Munich,
c'est dur, Jean-Louis, quand même.
Comment?
Non, compte tenu de ce qu'a été l'histoire de la Pologne avec l'Allemagne et la Russie, c'est dur de dire qu'il faut choisir.
N'empêche que jusqu'en 1938, jusqu'en 1938, les Polonais ne sont pas du tout solidaires des Français. Les Polonais sont... Le colonel Beck est très proche des nazis. Enfin, il n'est pas nazi lui-même, il est très proche du régime hitlérien. Et quand on arrive aux accords de Munich, il prend sa part, petite part, le Teschen, le territoire de Teschen, du démembrement du territoire tchèque. Et ça, c'est quelques mois avant que la Pologne soit l'objet d'un nouveau partage. La Pologne a une situation géopolitique, là je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Thierry, extrêmement difficile, et ça demande beaucoup de sagesse. Et là on voit bien que tous les choix sont mauvais. Institutionnellement, la Pologne a trouvé la démocratie, la liberté, après le retrait de l'Union soviétique. Bon, c'est un acquis fondamental. Qu'est-ce qui leur passe par la tête? C'est l'idée de mettre en cause ce qu'ils appellent la démocratie libérale. Ils veulent inventer une démocratie non libérale, c'est-à-dire une aporie, une démocratie qui n'est pas démocratique. Parce que s'il n'y a pas de pluralisme, pas de liberté de l'information, pas de protection des minorités, là, le pouvoir du peuple ne signifie rien. Tout ce que nous raconte Madame Chidlow, de ce point de vue, est totalement inepte. Et tout ce que nous raconte M. Duda également. On ne défend pas la souveraineté polonaise. On n'attaque pas, nous, la souveraineté polonaise. On dit simplement que pour que la souveraineté polonaise s'exerce pleinement et continuellement, il faut des règles constitutionnelles et un pouvoir... Bon, là, il s'accole, il s'adosse à, en fait, à la verticale du pouvoir de leur ennemi fondamental qui est Poutine, à la démocratie non libérale d'Orban, c'est-à-dire à un modèle qui est le modèle qui a fait leur malheur. Bon, premier point. Sur le plan économique, ils ont une réussite, un parcours absolument sans faute. On ne leur demande pas d'adhérer à l'euro, s'ils veulent. En fait, ils sont théoriquement obligés de le faire, mais en réalité, tout le monde est coulant sur cette affaire-là. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils remettent en cause les bienfaits de leur politique économique et ils inventent quelque chose qui produira des résultats, tôt ou tard, qui seront médiocres ou mauvais, ce que Standard & Poor's repère. Enfin, sur le plan géopolitique, ils savent pas du tout où ils en sont. Ils mettent en cause à la fois les Russes. Alors, il y a le cauchemar de Smolensk, c'est-à-dire la destruction en vol, enfin, l'accident aérien qui a coûté, à l'occasion d'une célébration de Katyn, ça a été un petit Katyn, puisque c'est toute la superstructure étatique de l'État polonais qui a volé en éclats avec l'avion du président Kaczynski, en 2010. Bon. Alors, ils sont vent debout contre les Russes et en même temps ils sont vent debout contre les Allemands. Ils ont convoqué l'ambassadeur allemand pour des paroles qui ont été prononcées par un Allemand, certes, le président du Parlement européen, un autre Allemand, le commissaire allemand, le membre allemand de la Commission, mais qui n'engageait en rien la République fédérale. Donc ils se mettent dans une situation, ils se mettent dans un corner, ils se brouillent également avec la France, puisqu'ils risquent de remettre en cause les contrats qui ont été tout à fait signés avec nous, avec certaines firmes françaises. Tout cela les conduit vraiment dans une impasse. Donc on a, c'est quelque chose qui est saisissant. Alors face à cela, je fais une autre remarque, c'est que l'Europe est absolument en hors d'état de réagir. L'article 7 qui est du traité est un article absolument impraticable. Bien sûr, la Hongrie a tout de suite dit qu'il faut prendre des décisions à l'unanimité. La Hongrie a tout de suite dit ça sera sans moi, donc ça n'aura pas lieu. Mais même si la Hongrie n'avait pas lieu, personne n'imagine que le Conseil européen, saisi d'une volonté qui lui fait totalement défaut, puisse faire quelque chose. En revanche, les Polonais recevront sans doute des contre-coups négatifs, qui seront d'autant plus négatifs qu'ils n'auront pas été brandis comme une menace antérieurement, à travers les négociations qui se produisent. On est à mi-chemin, dans quelques mois, de la renégociation du paquet structurel. On va donc remettre en cause tous les bons, et on est quand même dans une incertitude sur l'avenir de la politique agricole. Alors moi, j'ai vu à quel point, par exemple, la politique agricole avait été un élément central de l'adhésion du peuple polonais, du peuple paysan polonais, à l'idée européenne.
Thierry Pech.
Je crois que le gouvernement polonais actuel fait des réformes préoccupantes et même inquiétantes, et qu'on a raison de s'en inquiéter. En même temps, notre inquiétude nous empêche de réfléchir à nos propres incapacités passées, à comprendre ce qui se déroulait en Pologne et les raisons qui ont conduit l'électorat polonais à voter pour cette nouvelle majorité. On ne peut pas dire la démocratie est en train de mourir en Pologne alors qu'elle vient de parler. Il faut essayer de comprendre ce qu'elle vient de dire en votant pour...
35%, très bien.
Mais il faut essayer de comprendre. Il faut essayer de comprendre pourquoi ce que nous regardons depuis Paris comme un succès, la politique de la plateforme libérale de ces qui a gouverné la Pologne pendant 8 ans, et a été perçue de l'intérieur de la Pologne, non pas comme un succès, mais comme un problème. C'est vrai que le vote pour droit et justice est un vote des perdants de la période de la libéralisation. Il faut essayer de comprendre ce qui se passe. Je veux dire, ce serait un péché contre l'esprit que de ne pas essayer de le faire. Bon, par exemple, c'est tout à fait juste que les réformes actuelles sur le tribunal constitutionnel et les médias menacent le cœur de l'état de droit. Mais souvenez-vous que les prédécesseurs n'avaient pas été totalement exemplaires sur ces sujets. Et que du point de vue des Polonais eux-mêmes, c'est pas les méchants qui arrivent après les gentils. Souvenez-vous que, par exemple, le gouvernement de la plateforme libérale avait nommé par avance des juges constitutionnels au tribunal constitutionnel, pensant que le pouvoir leur manquerait de le faire plus tard. C'est pas non plus un comportement tout à fait exemplaire avec l'état de droit. Donc, ce qui se passe aujourd'hui dans l'histoire polonaise, c'est aussi une lente acclimatation de l'état de droit. La démocratie, c'est une chose. L'état de droit, c'est ce qui permet à la démocratie de se projeter dans la durée, effectivement. Et de ce point de vue-là, ce qui est fait aujourd'hui est évidemment très contestable, mais il faut, je crois, l'appréhender dans une histoire plus large. Sur le plan économique et social, les réformes qui visent, on n'en a pas parlé jusqu'ici, les banques, les assurances et les hypermarchés, sont des réformes, notamment par la création de taxes qui pèseront d'un côté sur les actifs des banques et des assurances, de l'autre sur le chiffre d'affaires des hypermarchés. Ce sont des politiques qui ciblent des acteurs économiques étrangers, le plus souvent sur le sol polonais, avec... je veux dire, la faveur et les suffrages d'une majorité de Polonais. Il faut bien voir que ce qui a été perçu comme une libéralisation réussie est aussi regardé de l'intérieur de la Pologne comme une bonne nouvelle pour les acteurs économiques étrangers. Alors là, effectivement, la politique mise en place ressemble à celle d'Orban, mais elle a aujourd'hui une certaine légitimité populaire. Et c'est ça qui est compliqué, qu'il va falloir... très bien, mais Nicole...
J'étais en Pologne tous les ans pendant 20 ans, je peux vous dire, c'est autre chose aujourd'hui qu'il y a 20 ans.
Bien sûr, mais vous avez raison, Jean-Louis, je ne dis pas du tout le contraire. Je dis simplement, et ça a créé beaucoup d'emplois, et ça, c'est pas un débat. Mais de fait, l'économie polonaise n'est pas montée en gamme, et elle est perçue par les Polonais eux-mêmes comme ayant fait des perdants. Alors, en face de ça, les dépenses sociales qui sont annoncées par le gouvernement sont absolument, inconséquentes. Vous avez d'un côté des taxes qui vont rapporter quelque chose comme 2 milliards, et de l'autre, on baisse l'âge de la retraite à 65 ans pour les hommes, 60 ans pour les femmes. On revient à la situation antérieure. On promet des allocations familiales assez généreuses. On promet des médicaments gratuits pour les plus de 75 ans. Il y a une espèce de démagogie sociale et populiste qui ne tiendra pas compte tenu du déficit budgétaire actuel de la Pologne et des alertes qui sont données sur les marchés financiers.
François Bujon de l'Étang.
Oui, moi, il me semble que la Pologne tourne mal, en effet, et que Bruxelles a des raisons de s'en inquiéter. La Pologne tourne mal parce que, pour toutes les raisons qu'on a dites, elle s'en prend au cœur de la démocratie, c'est-à-dire à la Cour constitutionnelle, elle nationalise, si j'ose dire, en tout cas elle affirme l'autorité de l'État sur les médias publics, et elle prépare pour le printemps une loi sur la presse qui inquiète énormément. Donc elle suit un peu les traces que Viktor Orban avait laissé derrière lui en Hongrie. C'est pour ça qu'il appuie bruyamment, d'ailleurs, le nouveau gouvernement polonais. Et l'inquiétude de Bruxelles est tout à fait compréhensible, d'autant plus que la Pologne, il ne faut pas l'oublier, reçoit aujourd'hui en moyenne 15 milliards d'euros de Bruxelles, des fonds structurels, et que l'on est un des grands bénéficiaires. À cet égard, on peut faire, juste une parenthèse, un rapprochement un peu hasardeux, certes, mais quand même intéressant, avec la Grèce. Ce sont deux pays qui reçoivent énormément de la part de Bruxelles et où se développe le plus l'antisepticisme ou l'hostilité à Bruxelles. Alors pourquoi ça? C'est la conjonction de plusieurs mouvements dont vous avez parlé les uns et les autres. Un mouvement incontestablement souverainiste, et ça, vous avez très bien, Nicole, analysé les raisons pour lesquelles un pays qui a perdu sa souveraineté pendant 60 ans peut être chatouilleux sur ce sujet. Un rejet du libéralisme et se défendu avec succès, d'ailleurs économique, par la plateforme civique. Et un mouvement xénophobe qui a été déclenché par les migrants et par ce que M. Kaczynski appelle l'invasion musulmane. Alors, ça, c'est quand même un phénomène assez important pour un pays qui est au cœur de l'Europe, qui a 40 millions d'habitants et qui, à certains égards, était considéré comme le success, la success story de l'élargissement. Alors, indépendamment de ce qui se passe en Pologne et qui aura des conséquences très importantes sur les relations avec l'Allemagne, sur la politique de l'Europe à l'égard de la Russie ou sur l'avenir du triangle de Weimar, il faut voir en quoi tout ceci nous concerne. Tout ceci nous concerne parce qu'il y a un phénomène général pour l'instant qui est le développement des populismes sous des formes diverses, mais dans tous les pays européens pratiquement, populisme généralement de droite. Et en même temps, une certaine fascination de nos opinions publiques, dans nos démocraties libérales flageolantes ou en crise, pour des régimes autoritaires. Cette fascination pour ce qui se passe en Pologne vaut aussi pour ce qui se passe en Hongrie, moins connu, chez Orban, mais regardez à quel point une fraction de notre opinion publique s'intéresse à M. Poutine. Je suis toujours fasciné par l'importance du parti pro-Poutine en France, par exemple, et la fascination à l'égard des dérives autoritaires de M. Erdogan, par exemple, ou d'autres. Il y a donc là quelque chose qui nous interpelle. Et au fond, notre ami Jacques Rupnik, que nous avions reçu à ce micro il y a quelques mois, a raison peut-être quand il dit que la Pologne aujourd'hui, dans cette dérive, nous renvoie une image déformée de nous-mêmes. Elle nous renvoie l'image de ce que serait la montée des populismes s'ils arrivaient au pouvoir, et elle nous renvoie aussi une espèce d'accusation en refusant l'invasion musulmane, pardon, c'est entre guillemets, je cite M. Kaczynski, elle nous envoie le message de l'échec du multiculturalisme dans nos sociétés. Elle ne veut pas de multiculturalisme chez elle, et en ceci, elle est à la tête d'un mouvement qui comprendra aussi très vite la Slovaquie et la République tchèque.
Nicole Nisotto.
Oui, une question effectivement. Est-ce que la Pologne illustre la résurgence des démons du passé, le nationalisme, le souverainisme, la xénophobie, l'antidémocratie? Ou est-ce qu'elle anticipe les démons de l'avenir? Et en ce moment-là, effectivement, la Pologne pourrait être une espèce d'avant-garde de ce que serait l'Europe dans quelques années. Et évidemment, on peut tout à fait avoir en tête l'évolution française, parce qu'on peut y remarquer les mêmes éléments dont parlait Thierry, un certain vieillissement de la population, une certaine paupérisation des classes moyennes, et puis des chocs violents, terrorisme aux réfugiés, qui polarisent une partie des citoyens sur l'extrême droite. Donc ça, c'est une question importante qui fait que, je crois que Jacques Rupnik disait que la Pologne, c'est pas un problème polonais, c'est un problème européen.
C'est un problème européen. C'est un peu simple.
Oui, mais quand même, il y a quelque chose. Deuxième remarque que je voudrais faire, c'est sur la réaction européenne. C'est vrai que la Commission a réagi très vite, puisqu'ils ont été élus en octobre 2015, donc la réaction apparaît rapide. Mais si on élargit un tout petit peu le champ de vision, moi je trouve que la réaction des Européens à l'ensemble de ces montées, des mouvements d'extrême droite en Europe est très tardive et très légère. Nous n'avons rien dit depuis 2000 ou très peu vis-à-vis de la Hongrie de M. Orban, qui quand il est arrivé au pouvoir en 2000 a fait exactement la même chose. Une réforme de la Cour constitutionnelle, une loi sur les médias liberticides. Nous avons protesté vaguement, mais enfin nous n'avons pas fait grand-chose. La Finlande, depuis juin 2015, le parti des vrais Finlandais, qui est un vrai parti d'extrême droite, est au gouvernement. Plus personne à Bruxelles ne semble l'avoir remarqué. Alors évidemment, la Pologne, c'est un tellement gros morceau que l'on fait quelque chose. Et je crois qu'il faut pointer le fait que dans les institutions européennes, la vigilance démocratique est en berne, la tolérance à l'égard des extrêmes est en hausse, et que ça, c'est très grave pour l'avenir de notre démocratie.
Jean-Louis Bourlange.
Oui, je crois que je crois qu'il y a derrière ça quand même un problème géopolitique massif, parce que nous avons à la fois le Brexit et nous avons la crispation de la Pologne, de la Hongrie, de la République tchèque et de la Slovaquie. Ça fait quand même le cercle des Habsbourg, comme dirait Rupnik, qui est en cause. Et là, je crois qu'il faut partir de l'idée qu'il y a trois Europes. Il y avait l'Europe du marché commun, l'Europe de l'Association européenne de libre-échange derrière l'Angleterre et l'Europe du Comecon, maintenant émancipée de l'Union soviétique. Ces trois Europes, nous avons pensé les fédérer. Or, nous n'y arrivons pas. Nous n'y arrivons pas parce que le souverainisme autoritaire à l'Est reste très puissant et que l'allergie au partage et en Angleterre reste fort. Et je crois que la réponse, enfin il faudrait aller beaucoup plus avant sur cette réflexion, mais que la réponse que nous pouvons apporter, une fois de plus, c'est une réponse qui ne peut venir que du centre. Si la périphérie de l'Europe, de l'Union européenne est faible, c'est parce que le centre est fragile. C'est l'incapacité des Français et des Allemands à faire une offre forte qui fait que les puissances centrifuges se déchaînent.
Thierry Pech.
Oui, c'est pas la démocratie qui est menacée, c'est la démocratie qui apporte ces gens au pouvoir. Il faudra se demander pourquoi les gens sont conduits à voter de cette façon et essayer de répondre à ces raisons-là. Mais alors, le spectacle européen est absolument désolant. J'écoutais les commentaires des uns et des autres à Davos. Manuel Valls parlait du terrorisme. De Rutte, le néerlandais, parlait de la libéralisation. Tsipras parlait des réfugiés. J'en oublie. Chacun parlait d'un sujet différent de l'autre. Voilà. La désunion européenne était spectaculaire à Davos.
C'est sur cette constatation désabusée que nous sommes arrivés à la dernière séquence de cette émission, celle des brèves que je vais, une fois de plus à la demande de la population, ouvrir en rappelant cette phrase de Charles Quint qui disait « Paris est la seule ville qui soit aussi un monde ». Bien, dans un livre intitulé « Au rendez-vous des mariniers », Frédéric Vitoux montre que l'île Saint-Louis est la seule île qui soit aussi un monde. Il faut dire que Frédéric Vitoux est né natif de l'île Saint-Louis, son épouse aussi, ça doit être assez rare, ces mariages intra-insulaires, et il a repéré, si je puis dire, à quelques pas de sa propre demeure, un ancien bistrot, un ancien mastroquet, au rendez-vous des mariniers, qui date de l'époque où il y avait à la fois des péniches qui s'arrêtaient en bas de l'île Saint-Louis, des lavandières, et ce mastroquet a duré à peu près 50 ans, jusqu'au milieu des années 50, et Frédéric Vitoux est parti à la recherche de ceux qui ont été les clients, du rôle qu'a joué cet établissement et ses trois tenanciers successifs dans la vie de l'île Saint-Louis. Et c'est absolument formidable. Il y a là non seulement une population populaire, si je puis dire, mais une population littéraire qui est tout à fait à la hauteur de l'imaginaire qu'on peut avoir de l'île Saint-Louis. On y retrouve aussi bien Dos Passos que Jean de la Ville de Miremont, que Frédéric Vitoux fait revivre avec beaucoup de sensibilité, et aussi des événements tout à fait... je parle d'autres écrivains, Drieu La Rochelle, Simenon, j'en passe, et des meilleurs, et également une rencontre entre le seul, sans doute, le seul repas que François Mauriac et Louis-Ferdinand Céline aient pris ensemble, eh bien, ils l'ont pris au rendez-vous des mariniers. C'est tout le charme de ce que peut être une monographie dont on peut dire quand même que c'est une monographie amoureuse, comme les dictionnaires du même nom. Ça s'appelle « Au rendez-vous des mariniers », c'est publié chez Fayard. Nicole Niesoto.
Oui, alors l'ombre de la Russie a plané un petit peu sur cette émission, et moi je voudrais recommander le livre d'Andrei Gratchev, qui a été le conseiller politique et le dernier porte-parole de Gorbatchev, et qui donc a connu toute l'évolution entre 85 et 91. Ce livre s'appelle « Le passé de la Russie est imprévisible ». Et c'est à la fois une analyse formidable de ces six années qui ont changé le monde, qui n'ont pas simplement changé la Russie, l'URSS, mais qui ont changé le monde, de la part d'un homme qui est un vrai lettré francophone, francophile, une espèce d'Européen du XVIIIe siècle. Et en même temps, aujourd'hui, une analyse de ce que représente le phénomène Poutine pour la Russie et pour l'évolution de ses relations avec l'Europe, à partir d'une question que je trouve intéressante, qui est pourquoi la Russie n'arrive-t-elle jamais à se réconcilier avec le monde.
François Bujon de l'Étang.
Moi, je voudrais vous inviter aujourd'hui à une incursion dans le domaine de la musique classique. L'école de piano française a produit toutes sortes de brillants interprètes, mais Elle a produit récemment un nouveau petit prince du piano qui s'appelle Bertrand Chamaillou. C'est un Toulousain de 34 ans, pianiste absolument remarquable, qui avait déjà été remarqué notamment par une intégrale des années de pèlerinage de Liszt. Il a donné mardi dernier au Théâtre des Champs-Élysées une intégrale de l'œuvre pour piano de Maurice Ravel, ce qui est une extraordinaire performance en une seule soirée. Et il vient de l'enregistrer chez Erato. C'est une admirable interprétation d'une musique qui est extraordinairement colorée et extraordinairement diverse, mais dont il fait, je trouve, remarquablement ressortir la profonde unité. Voilà, c'est une performance que je voulais saluer, et c'est une interprétation que je veux saluer, bien que Maurice Ravel disait que sa musique ne s'interprète pas, elle se joue.
Thierry Pêche.
J'ai lu beaucoup de propos bêtes et méchants cette semaine sur les réseaux sociaux. Alors je voulais dire à leurs auteurs qu'on peut être méchant sans être bête. Je leur recommande le bouquin des méchancetés de François-Xavier Testu chez Bouquin. Et alors vous verrez que vraiment il y a deux champions sur le podium, si vous voulez, de la méchanceté, c'est Churchill et Clémenceau. Je vous donne quelques avant-goûts de Churchill. Je vois François sourire parce que je lui en faisais part juste avant le début de cette émission. Un jour que dans une auberge, Lloyd George demanda où se trouvaient les toilettes à Churchill. Churchill lui répondit « Là-bas, au fond, vous verrez, c'est écrit « Gentleman, vous entrerez quand même ».
Je voudrais venir en appui de votre recommandation parce que il y a énormément de recueils de mots, de trucs qui sont faits en général par dessous la jambe en prenant des trucs plus ou moins sérieux, plus ou moins connus, etc. Là, c'est un travail remarquable. Il n'y a pas un auteur cité, y compris ceux qui, pour moi, figurent parmi les plus obscurs, dont l'auteur de ce volume ne soit capable de donner quelques éléments biographiques, de resituer dans la période historique dans laquelle... je ne connais rien dans ce genre-là qui soit aussi réussi et aussi riche, et non seulement on s'amuse, mais on s'instruit par-dessus le marché.
Un petit supplément pour la route. Churchill décrivant de Gaulle comme un lama femelle qu'on aurait surpris dans son bain.
Je ne savais pas que c'était Lloyd George. Je connaissais l'histoire des toilettes, mais je ne savais pas que c'était Lloyd George.
Jean-Louis Bourlange.
En revanche, je suis très sensible à la brève de Philippe, parce que je me suis marié à Saint-Louis en Lille, et donc mari et femme aussi.
Oui, mais vous n'étiez pas né dans l'île Saint-Louis, ni votre épouse. Tandis que là, vraiment, Nicole Vitou et Frédéric Vitou sont nés natifs.
Je suis très inférieur au Vitou. Alors, je voulais dire tout l'intérêt que j'avais pris à lire le livre publié dans la... NRF et C. Gallimard, le livre d'Emilio Gentile, Soudain le fascisme, la marche sur Rome, l'autre révolution d'octobre, puisque c'est en octobre 1922 que Mussolini prend le pouvoir. Et je crois que c'est très très intéressant de voir comment on arrive au pouvoir quand on a les idées de Mussolini. Alors il y a plein de choses, je ne peux pas évidemment en parler longuement, je dirais simplement qu'il y a trois choses qui m'ont frappé. C'est d'abord l'extraordinaire climat de violence. C'est vraiment pas les désordres. On apprenait dans nos livres d'histoire que le désordre caractérisait l'Italie. C'est une quasi-guerre civile qui précède la prise de pouvoir de Mussolini. Deuxièmement, et ça c'est assez rassurant pour ce qu'on vit en France, c'est l'obsession, la présence décisive de la menace bolchevique. C'est vraiment la crainte du socialisme, la crainte du communisme. Un socialiste qui d'ailleurs n'arrive pas à s'arbitrer, puisqu'il n'a pas de congrès de Tours. Il y a tout dans le parti socialiste italien à l'époque. Et troisièmement, c'est l'accord avec la droite. Et je crois que ce qui est très frappant, c'est exactement comme pour l'arrivée d'Hitler. Hitler est arrivé par l'accord avec von Papen, c'est-à-dire avec la droite nationale classique, et lui est arrivé avec le concours plus ou moins implicite de Giolitti. Et ça donne plutôt ses chances à Marion Le Pen qu'à Marine.
Je vous remercie. C'était L'Esprit Public, une émission de Philippe Meyer, réalisée par Luc-Jean Reynaud, préparée avec Adrien Nazelli, avec aujourd'hui à la technique Emmanuel Couturier. Ne manquez pas votre rendez-vous habituel avec Alain Kruger. Il s'intitule « Il a mis le café dans la tasse » et Alain Kruger reçoit Hippolyte Courty, le fondateur de l'Arbre à Café. Ils parlent ensemble de l'histoire du café depuis l'origine chez la peuplade Oromo dans l'ouest éthiopien, qui cueillait et buvait le café dans la région de Kaffa, qui était vendu à Harar par les Bongas, qui fut propagé par les Arabes depuis Mocha et qui devient le Kawa et de la péninsule arabique conquis le reste du monde. J'espère vous retrouver la semaine prochaine à la même heure sur cette même chaîne pour une nouvelle émission de L'Esprit Public.
C'est carrément une brève.